France Culture.
Les midis, c'est reparti. Tout à l'heure, comme promis, je discuterai avec Guillaume Gallienne, mais tout de suite, place au Point Culture de Marie Sorbier. Bonjour.
Bonjour Marie et bonjour à tous. Samedi 17 mai, de la tombée de la nuit jusqu'à 1h du matin, partout en Europe, près de 3000 musées, dont 1300 en France, proposeront une programmation spéciale pour faire découvrir ou redécouvrir gratuitement leurs collections. La 21e Nuit Européenne des Musées, c'est le dossier du Point Culture du jour. Émilie Girard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes présidente de l'ICOM France et vous êtes également à la tête d'un réseau de 11 musées à Strasbourg. Alors à l'occasion de la Nuit Européenne des Musées à venir, est-ce que vous pourriez nous parler un peu de l'ICOM ? À quoi ça sert cette organisation non gouvernementale ?
Alors l'ICOM, c'est une organisation effectivement internationale, ce qui fait tout son intérêt, qui est organisée en comités par pays, donc un peu plus de 130 comités à ce jour, qui réfléchissent conjointement à des problématiques qui sont les problématiques que rencontrent nos musées aujourd'hui, que ce soit sur les questions de gestion de collection, d'ouverture au public, de réflexion sur le contexte dans lequel on évolue aussi, les impacts que la société, que les crises qu'on vit tous, comment est-ce qu'on y fait face et comment est-ce qu'on gère tout cela. Donc, chaque comité national, comme l'ICOM France, travaille ces questions-là auprès de ses membres, puisque nous sommes une association de professionnels de musée.
Donc, c'est-à-dire que les membres, ce sont des directeurs de musée ou des gens, en tout cas, qui travaillent dans le secteur muséal.
Voilà, ce sont des gens qui travaillent dans le secteur muséal, donc des directeurs, comme vous le dites, mais pas seulement, c'est vraiment ce qui fait la richesse de l'ICOM, c'est-à-dire que vous avez tous les types de professions qui sont représentées, des gens qui accueillent les visiteurs en salle, des agents de surveillance, des gens qui s'occupent de la communication, des gens qui s'occupent des collections, des personnes qui s'occupent de la communication, de l'accueil, de la billetterie, de la gestion des bâtiments même, donc vraiment une variété de métiers qui est très représentative de la variété de nos métiers de musée.
Alors que la France fasse partie d'un réseau international, j'imagine que c'est nécessaire pour traiter certains sujets majeurs pour les musées. Je pense notamment au trafic d'œuvres d'art. Est-ce que c'est aussi ça l'ICOM ? Ça sert à élargir son réseau au-delà de toutes les frontières pour traiter des problématiques complexes ?
Tout à fait, c'est vraiment ce qui fait la richesse de ce réseau-là. C'est une organisation, je ne l'ai pas dit mais c'est important, hein, qui regroupe un très grand nombre de professionnels. Au sein d'ICOM France, pour vous donner un chiffre, on est à peu près 5500 membres individuels, donc c'est un chiffre très très important, et ça permet à ces professionnels de pays différents de discuter de problématiques complexes comme par exemple effectivement le trafic d'œuvres d'art. L'ICOM au niveau international publie des listes rouges, c'est-à-dire des listes par pays qui indiquent des points de vigilance sur certains types de biens qui sont susceptibles de faire l'objet de ces trafics. Donc c'est aussi une instance qui produit des documents tout à fait pratiques, des outils d'aide à la gestion des collections et à la surveillance du marché notamment, mais pas seulement. On réfléchit aussi aux transformations sur lesquelles nos musées doivent agir. Je pense évidemment au contexte de crise climatique dans lequel on évolue, de crise sociale, de crise sociétale. Comment est-ce que les musées, en tant qu'acteurs de la société, peuvent s'investir sur ces sujets-là ? Ce sont autant de questions que l'ICOM traite aujourd'hui.
Mais c'est aussi un partage de bonnes pratiques, c'est-à-dire qu'un musée asiatique peut dire que lui, sur la recherche climatique, il a trouvé telle solution et donc le met en partage pour la communauté. C'est aussi un outil communautaire ?
Mais bien sûr, c'est exactement cet usage-là qui est intéressant. C'est-à-dire que on organise des événements où on se rencontre sur ces thématiques-là pour dire, bah voilà, nous, on a testé telle modification de nos pratiques, tel changement. Si on prend l'exemple, par exemple, effectivement, du changement climatique, les musées sont producteurs de carbone comme toute activité, et notamment les systèmes de climatisation. Donc, ICOM France, en ce moment, travaille sur un projet d'accompagnement, de conduite du changement et de formation de professionnels du musée pour les aider à examiner la manière dont leur système de climatisation, de contrôle du climat fonctionne et voir comment est-ce qu'on peut réduire aujourd'hui cet impact carbone à travers le biais de cette activité-là. Et on a vocation à communiquer autour de ces actions pour les faire connaître, pour les partager, pour qu'elles deviennent réplicables et pour que tous les membres de la communauté des professionnels de musée puissent s'inspirer les uns des autres de leurs bonnes pratiques.
Alors, qu'est-ce qu'un événement comme la Nuit européenne des musées, hein, qui arrive bientôt et dont l'ICOM est partenaire, apporte justement aux musées qui y participent ?
C'est un très bel espace de visibilité, c'est-à-dire qu'on invite les gens dans une ambiance festive à venir découvrir nos musées avec des activités qui ne sont peut-être pas toujours au moment des visites courantes, des concerts, des performances, la présence des équipes dans les salles. Donc, c'est vraiment un moment de rencontre et c'est important aussi pour ça, c'est-à-dire faire connaître mieux nos musées, les rendre peut-être moins impressionnants, montrer qu'ils sont à la portée de chacun et ainsi contribuer vraiment à cette fameuse démocratisation culturelle qu'on appelle tous de nos vœux.
Donc ces opérations de communication, c'est aussi une façon d'abaisser la barrière symbolique dont on parle tant, c'est-à-dire franchir la porte du musée qui peut sembler, comme vous venez de le dire, impressionnante à plein de gens.
Bien sûr, je crois que cette idée de seuil, elle est essentielle dans toutes nos réflexions. Aujourd'hui, on réfléchit beaucoup le musée comme un lieu de vie, comme un lieu d'échange. On encourage les gens à venir passer un moment dans nos salles, dans nos espaces, pas seulement pour voir des expositions, mais ne serait-ce que pour venir discuter, se rencontrer, se retrouver. Et on voit aujourd'hui que les pratiques des publics, elles évoluent, elles sont de plus en plus demandeuses de ce type d'expérience un peu autre, qui rendent le musée peut-être plus accessible, moins impressionnant. Et je crois qu'aujourd'hui, les initiatives, elles sont nombreuses sur le territoire français et à l'international pour aller dans ce sens-là.
Alors peut-être une question plus locale, en tout cas plus française. Comment les musées français réagissent-ils aux différentes coupes budgétaires? Est-ce qu'il y a une inquiétude du milieu? Et est-ce que c'est aussi dans le cadre de l'ICOM un endroit où vous pouvez en parler entre professionnels?
On en parle effectivement parce que on en est tous bien conscients de cette crise économique dans laquelle on agit. Évidemment, on s'interroge sur la manière pour les musées de trouver un nouveau modèle économique, de développer des ressources propres, d'être aussi peut-être plus économe et de redéfinir les actions qui sont nos actions cœur de métier, ceux auxquels on ne veut pas renoncer. Effectivement, c'est des sujets qu'on discute en commun. Et là, d'ailleurs, la prochaine journée professionnelle d'ICOM France sera organisée au début du mois d'octobre au château de Versailles autour de cette question-là.
Vous parlez de ressources propres, mais comment un musée, alors peut-être en plus de la billetterie qui semble évidente, peut augmenter ses ressources propres ?
Il y a la billetterie, il y a les produits dérivés, vous avez aussi les locations d'espace, les privatisations, jouer avec la marque du musée, comment est-ce qu'on s'exporte, les coproductions, il y a beaucoup de moyens qui sont disponibles pour développer ces ressources qui sont expérimentées à droite, à gauche et de voir comment est-ce qu'on peut inventer un nouveau modèle du musée. Je crois qu'on est vraiment dans cette dynamique-là aujourd'hui, un nouveau modèle économique, un nouveau modèle environnemental, un nouveau modèle social ou sociétal du musée.
Et les liens avec le secteur privé, je pense notamment au mécénat, ce sont des sujets aussi qui sont sur la table en ce moment ?
Bien sûr, mais qui l'ont toujours été. Alors peut-être qu'aujourd'hui, ils prennent une visibilité plus importante, mais je crois que ces questions de mécénat, elles sont aujourd'hui essentielles. Et c'est aussi intéressant de voir comment est-ce que les musées travaillent cette question de mécénat plus seulement sous l'angle de la philanthropie, avec dans la tête l'idée de construire un véritable partenariat avec les mécènes, où chacun il retrouve ses billes, pas seulement financières, mais aussi en termes d'image, et de voir comment, ce qu'aujourd'hui, on construit des vrais compagnonnages avec les entreprises ou les particuliers, quelquefois, qui nous accompagnent. Voilà, tout ça pour vous dire que aujourd'hui, le musée est loin d'être une institution, sclérosée ou attentiste, mais qu'on a vraiment aujourd'hui des professionnels qui se battent pour inventer de nouveaux modèles et montrer comment est-ce qu'un musée peut être un acteur de la société.
Eh bien, merci beaucoup, Émile Girard, de nous avoir présenté l'ICOM et puis de nous avoir parlé plus généralement du contexte des musées en France aujourd'hui. Merci beaucoup.
Je vous en prie, merci à vous.
Et dans le reste de l'actualité culturelle, Marie, les rencontres chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis viennent de commencer.
Oui, jusqu'au 15 juin, 30 lieux en Seine-Saint-Denis vont proposer 33 spectacles. Alors à ne pas manquer, les 18 et 19 mai au TPM de Montreuil, la pièce chorale de la chorégraphe suisse Raphaël Giovanola, où les gestes font écho aux voix. Le 21 mai à Aubervilliers, une soirée rassemble Racha Baroud et Kinda Hassan qui racontent le Liban en guerre avec une création sonore performative. Puis la danseuse et chorégraphe égyptienne Hermine Habib va explorer la danse comme un outil de résistance et d'émancipation. Et enfin, à Pantin, les 4 et 5 juin, 8 jeunes issus des danses de rue du Grand Paris vont danser sous la direction d'Anapi, un guide pratique chorégraphique de la joie. Et bien sûr, comme d'habitude, vous retrouverez le programme complet sur la page web du Point Culture.
Merci Marie, et on se retrouve demain pour de nouvelles actualités culturelles. En attendant, il est 13h et vous êtes sur France Culture.